VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, le président Marc-Christian Kabore a prêté serment aujourd'hui au Palais des Sports à Ouagadougou pour un coup de projecteur sur la cérémonie d'investiture. Rejoignons notre correspondant dans la capitale burkinabé, Zoumana Wonogo.
Cette prestation de serment a été partagée entre l'aspect solennel et l'aspect festif. Cette prestation de serment a aussi été rehaussée par la venue à Ouagadougou de 9 chefs d'État, les présidents de la sous-région Mali, Niger, Togo, Bénin, Sénégal, Guinée et même un peu plus loin le Gabonais Ali Bongo.
Qu'est-ce que le président Kabore a dit dans son discours d'investiture?
Ce qu'il faut retenir le plus, c'est qu'il souhaite que l'autorité de l'État soit respectée dans le Burkina Faso. Puisque après l'insurrection, après les putschs, il y a un peu une faiblesse de l'État. Il y a l'incivisme, il appelle les Burkinabés à ce que force reste à la loi. Il souhaite aussi que la 4e République dans laquelle nous sommes soit conjuguée au passé. Et pour cela, il appelle tout le monde au dialogue. Il entend faire plusieurs rencontres avec les partis politiques, les organisations de la société civile, pour que le Burkina Faso se réconcilie avec lui-même et se réconcilie avec les autres afin d'aller vers le développement.
Qu'en est-il de son programme de gouvernement?
À ce niveau, il se trouve maintenant avec une majorité suffisante pour pouvoir appliquer son programme, mais un programme qui ne sera pas forcément son seul programme parce que ceux qui sont venus dans la majorité présidentielle auront aussi quelques points sur lesquels il faut qu'ils tiennent compte. Il a la majorité et dès demain même, le président de l'Assemblée sera choisi et on n'en doute pas, il sortira des rangs de son parti, le MPP.
Zoumana Wonogo à Ouagadougou. Au Niger, début aujourd'hui du contrôle du fichier électoral de la présidentielle par l'OIF. 4 experts de l'Organisation internationale de la francophonie sont arrivés hier à Niamey pour des opérations de vérification de ce fichier de 7 500 000 électeurs. Ce contrôle avant la présidentielle de février 2016 avait été réclamé avec insistance par l'opposition. Et puis, fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. D'Ebola en Guinée-Conakry, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a confirmé aujourd'hui l'arrêt de la transmission du virus dans le pays. Deux périodes de 21 jours, la durée maximale d'incubation de la maladie s'étant écoulée depuis le second test négatif sur le dernier patient guéri. Maintenant, la Guinée entre dans une période de surveillance renforcée de 90 jours pour confirmer définitivement l'élimination du virus. Au Mali, le bureau de douane de Nioro a saisi 500 kg de résine de cannabis dans un véhicule en route pour l'Algérie. Les autorités maliennes sont convaincues d'avoir repéré une nouvelle zone de transit dans le trafic des stupéfiants. Au micro de Modibo Dembélé, les explications du lieutenant-colonel Amadou Konaté, directeur régional des douanes de Kaye.
Je ne vais pas aller trop vite en conclusion, mais c'est une nouvelle route que nous sommes en train de découvrir par rapport à la résine de cannabis. Parce que la route connue, ce n'est pas la route du Mali. La résine n'est pas destinée à la consommation locale. Donc c'est un produit, pas de toute évidence, qui est en transit sur l'Europe. Donc c'est une nouvelle route. Les fraudeurs, ils profitent de toutes les situations. Vous savez qu'il y a un courant de trafic aujourd'hui entre le Maroc et notre pays. Donc les gens profitent de toutes les opportunités. Il faut renforcer la formation. Et nous avons bénéficié de beaucoup dans ce domaine de la coopération française. Il faut continuer, tout simplement.
Dans ce cas, quel peut être l'apport des populations civiles?
Ça, c'est la vigilance qui a travaillé. Mais au-delà de la vigilance, il faut le renseignement dans la lutte contre les produits illicites. Et le renseignement, on peut l'exploiter avec la population. L'apport de la population, c'est vraiment de rapprocher les services de lutte contre les produits illicites, donner les informations qu'ils détiennent par rapport à des gestes et des faits qui leur paraissent bizarres, tout simplement.
Le lieutenant-colonel Amadou Konaté des douanes de Kaye au Mali.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, les électeurs se rendent aux urnes demain pour élire leur président et leurs députés. Dans une déclaration, la présidente de l'Autorité nationale des élections, Marie-Madeleine Nkwe-Ornaert, a estimé que tout est prêt pour les élections.
L'Autorité nationale des élections s'est employée activement pour s'assurer que, partout, les Centrafricains puissent exercer librement leur droit de vote ce mercredi 30 décembre. J'ose espérer que les scrutins se dérouleront dans la quiétude et les résultats acceptés par tous, perdants comme gagnants. L'Autorité nationale des élections rassure de sa neutralité et de son engagement à respecter scrupuleusement toutes les obligations légales pour garantir la transparence et la crédibilité des opérations électorales. Je vous demande donc d'aller massivement dans les bureaux de vote pour apporter votre contribution à l'édification d'un Centrafrique nouveau.
Marie-Madeleine Nkoué-Ornaert, présidente de l'Autorité nationale des élections de RCA. Le dialogue inter-burundais en Ouganda, les représentants du gouvernement burundais, de l'opposition et de la société civile se sont retrouvés aujourd'hui autour du médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni. Chaque camp est pratiquement resté sur ses positions. La délégation gouvernementale a exclu toute discussion avec le CNARED, coalition de partis politiques et de groupes de la société civile opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Mais pour Frédéric Banvu-Guignon-Vira, secrétaire général du CNARED, Bujumbura n'a pas d'autre choix.
J'ai l'impression que le gouvernement de Bujumbura n'entend pas parler du dialogue. En fait, ce sont des gens qui ont évolué dans l'usage de la force. Or, l'usage de la force, aujourd'hui, n'a pas de mise. Ça veut dire ou bien ils discutent ou bien ils partent. C'est ce que ça signifie. Et le monde devra se lier pour dire, monsieur, on ne peut pas accepter que tu continues à tuer les Burundais, les Burundaises, parce que ce sont les citoyens du monde. Donc le monde doit se lier contre justement tel comportement. Ou bien il dialogue, ou bien il décide de partir.
Frédéric Banvu-Guignon-Vira, secrétaire général du CNARED, joint à Bruxelles.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité dans le reste du monde, la police belge a procédé à l'arrestation de deux individus soupçonnés de préparer des attaques terroristes à Bruxelles à l'occasion du réveillon du Nouvel An. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le parquet fédéral de Belgique. 6 interpellations ont été effectuées lors de perquisitions menées à Bruxelles, à Liège et dans une province voisine de la capitale belge dimanche et lundi. 4 des personnes interrogées par les services de sécurité belges ont été remises en liberté, selon le parquet. Et puis, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé lundi que l'Iran avait accompli l'une des étapes les plus importantes prévues dans l'accord sur son programme nucléaire. Selon M. Kerry, Téhéran a transféré lundi de l'uranium faiblement enrichi vers la Russie, conformément à l'accord signé en juillet à Vienne avec les grandes puissances. Les précisions de Lionel Gaïma.
Selon M. Kerry, ce transfert porte sur un peu plus de 11 tonnes de matériaux et comprend la totalité de l'uranium enrichi à 20% qui n'avait pas encore été assemblé sous forme de plaques de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran. Moscou a confirmé la nouvelle, dit l'AFP, tout comme le chef du programme nucléaire iranien Ali Akbar Salehi. Pour rappel, l'Iran s'est engagé à ne pas détenir plus de 300 kilos de ce matériau lors de l'entrée en vigueur de l'accord de Vienne. Cet accord prévoit la limitation d'une partie de ce programme, en particulier l'enrichissement d'uranium sur une période de 10 à 15 ans. Ces limitations ne concernent pas le développement du parc nucléaire civil iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique déterminera lorsque l'Iran aura rempli toutes ses obligations à la matière, ce qui devait permettre la levée progressive des sanctions économiques imposées par les États-Unis et d'autres pays.
Ici même aux États-Unis, un jury de Cleveland, dans l'État de l'Ohio, a décidé de ne pas inculper un policier blanc ayant abattu en novembre 2014 Tamir, un garçon africain-américain de 12 ans qui tenait à la main un pistolet factice, Eddie Sango.
Les jurés n'ont trouvé aucune preuve des conduites criminelles de la part du policier, a annoncé lundi les procureurs de Cleveland, Tim McGinty, clôturant ainsi une année des manifestations d'activistes et des simples citoyens choqués par la vidéo de l'incident. Celle-ci montre les policiers Timothy Lohman tirant sur l'enfant quelques secondes seulement après son arrivée sur les lieux en compagnie d'un collègue à bord de leur voiture des patrouilles. La police avait été alertée sur la présence à cet endroit d'un homme portant une arme à feu. Les autorités découvriront par la suite que ce que le policier a pris pour un pistolet était en fait un jouet. Elles ont aussi constaté que l'embout orange permettant d'identifier les pistolets factices comme étant un jouet avait été ôté, lui donnant l'apparence d'une arme réelle. Des enquêteurs indépendants ont estimé que tout policier raisonnable aurait pris les jouets pour une arme à feu.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.